RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Suite des GG, on attaque la troisième heure avant d'accueillir notre invité et de débattre avec Charles Consigny, Flora Guevalli et Bruno Poncet. Je vous rappelle que la Coupe du Monde, c'est dans un mois, c'est le 11 juin. Et nous, on a pour vous la totale Coupe du Monde. On a un grand jeu autour de la liste des 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. On a des cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, les maillots des Bleus, un baby-foot. Tout ça, ça se gagne juste en envoyant un SMS. Vous envoyez liste par SMS au 732-16. Liste par SMS au 732-16. Vous êtes tiré au sort. Ensuite, vous choisissez un joueur parmi la liste des 26. Et derrière ce joueur, un cadeau. Vous avez 10 minutes, 5 minutes devant vous. 5 minutes, 10 minutes, 5. 5. Bon, je vous en donne 5 pour jouer, pour envoyer liste par SMS au 732-16. Et le gagnant ou la gagnante, tout à l'heure avec nous, à 11h20.
RMC, face aux grandes gueules.
Elle est magistrate, elle est avec nous. Son livre s'appelle « Les juges ont-ils vraiment tous les droits ?» C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonjour, juge Brugère, Béatrice Brugère.
Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Les accusations, les dépôts de plaintes se multiplient contre Patrick Bruel, c'est révélé par la presse. C'est du grand déballage médiatique ou ça sert la justice ?
En fait, il y a un nouvel acteur aujourd'hui qui est important, qui est celui quand même des médias qui jouent et qui influencent très clairement le cours de la justice, parfois de façon positive, parfois de façon négative, quand ils veulent faire l'enquête avant l'enquête. Et donc, c'est toujours intéressant parce que il y a aussi les victimes qui ont de plus en plus la parole. Donc,
mais aujourd'hui, pour se faire entendre, il est peut-être préférable d'aller dans un grand magazine, à la télé, plutôt qu'aller déposer plainte dans un commissariat, quand on a été victime d'agression sexuelle et qu'on désigne un chanteur très connu.
Oui, mais c'est à double face, parce qu'il y a aussi la question de la présomption d'innocence qui fait que parfois les médias vont plus vite, et donc c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que à la fois c'est positif parce que ça permet d'attirer l'attention de la justice qui parfois malheureusement peut passer à côté aussi, ou faire des. On sait aujourd'hui on a une difficulté majeure, on manque d'enquêteurs, on n'arrive pas à tout traiter, donc c'est pas quelque chose qui me semble totalement négatif. Ce qui peut l'être, c'est quand on fait le procès avant le procès sans respecter les grands principes qui sont celui de la présomption d'innocence. Donc là, je prends acte. Moi, je ne connais pas ce dossier, évidemment, qu'il va y avoir une enquête qui va être réouverte, puisqu'il y avait un premier classement sans suite, parce qu'il y a une forme de sérialité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits en plus qui sont autour. La vraie question, aujourd'hui, si cette enquête aboutit et que les faits sont avérés, c'est aussi la question du jugement, vous le savez. Puisque, exactement. Et la deuxième question, c'est la question
De
l'ancienneté, voilà. Qui fait que plus on est loin des faits, plus c'est compliqué pour les victimes. Ensuite, souvent c'est parole contre parole. Alors, combien de temps, vous me posez la question, c'est le sujet d'actualité, puisque vous savez qu'il y a un projet de loi sûr qui essaye d'accélérer
les procédures.
Alors, même pas les procédures, maintenant c'est le jugement carrément, c'est que là on est au bout d'une procédure au criminel. L'instruction est faite et on peut avoir des délais qui vont jusqu'à 8 ans, pour répondre à votre question, d'attente, c'est-à-dire juste pour trouver une date. Vous savez, c'est comme chez le médecin, juste pour avoir la date pour être jugé. Donc c'est un vrai,
Les plaintes, qui ont été déposées, si elles vont au bout, s'il y a une instruction, s'il y a un renvoi devant un tribunal, il y aura peut-être pas de procès ou de jugement avant 8 ans.
Alors, c'est des délais un peu quand les personnes ne sont pas détenues, parce qu'en fait, la question est aussi là, sans faire trop de technique.
Quand la personne est libre, elle est jugée plus tard.
Exactement. En fait, on priorise les détenus, parce que souvent les détenus, c'est les faits les plus récents et les plus graves. Et donc, on essaye de les juger avant, ce qui fait d'ailleurs une inégalité, d'ailleurs pour les victimes, il faut le reconnaître. Parce que si la personne qui est mise en cause n'est pas détenue, eh bien vous passez votre tour et ça peut aller en effet sur des délais extrêmement importants qui s'ajoutent déjà au délai de l'instruction.
Et juste pour dire encore un mot sur ces affaires Bruel, aujourd'hui bon nombre de collectifs féministes partent d'un principe, c'est victimes on vous croit. Est-ce que ça vous paraît justifié de dire victime, on vous croit? Ceux qui témoignent, qui racontent leur expérience, on vous croit ou pas?
Moi, je pense que c'est comme la commission d'enquête sur l'inceste qui a cours en ce moment. Les deux excès sont terribles, c'est-à-dire pendant longtemps après l'affaire Outreau, on ne croyait plus les enfants. Parce que vous savez, il y a eu un espèce de retour du balancier. Moi, je crois que les magistrats doivent pas être dans la croyance, ni pour dire je vous crois, ni pour dire je ne vous crois pas. Ils doivent être dans l'enquête, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, ça s'organise avec une procédure, avec une enquête et des faits qu'on vérifie. Donc, la croyance, je dirais, n'a pas lieu d'être dans une procédure, même si vous avez raison de le souligner, ça marche parfois un peu comme ça. Donc, il y a une problématique aujourd'hui sur la place des victimes. Et donc, vous avez des effets de balancier, vous le savez. Et la justice est très mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'elle est sous pression en permanence.
Il y a une décision de justice qui est très attendue, ce sera le 7 juillet prochain, concernant Marine Le Pen.
Oui.
Et donc, c'est la justice qui va décider ou non de l'inéligibilité de Marine Le Pen.
Donc, il va faire le casting de la présidentielle.
Donc, les juges, les juges ont tous les droits.
Oui.
Alors, d'abord les juges, vous allez sur une question un peu difficile, mais c'est votre rôle d'aller droit au but. En fait, il faut jamais oublier d'abord que les juges sont inscrits dans une légalité, c'est-à-dire la loi. C'est bien la loi qui leur donne la possibilité, j'allais dire, d'éliminer, hein, pour reprendre votre terme, éventuellement un homme ou une femme politique, puisqu'on est sur un agenda qui est celui des présidentielles. C'est la loi qui dit il faut prononcer une peine d'inéligibilité, etc. Donc c'est bien les parlementaires qui nous ont donné ce pouvoir. Après, la vraie question, c'est comment, dans le cadre de la loi, puisqu'évidemment on est dans le cadre de la loi, les magistrats, avec sagesse et justesse et proportionnalité, utilisent évidemment la loi. En France, et c'est souvent d'ailleurs source de critiques, et y compris sur vos plateaux, puisque je suis déjà venue plusieurs fois, et j'ai pas peur de cette confrontation, hein, j'ai même au contraire, elle nourrit ma réflexion, il y a une espèce d'énervement et de colère contre les magistrats. Alors vous savez, soit on est trop laxiste, soit on est trop répressif, enfin ça va jamais, en tout cas
trop
ça va
gauche.
Rarement, etc. Il faut bien comprendre quand même que encore la loi nous donne cette possibilité d'avoir une énorme, j'allais dire, marge d'appréciation. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous avez un crime qui est puni entre 0 et 10 ans, vous avez entre 0 et 10 ans, vous, magistrat. Vous imaginez ? Donc, en fait, ce pouvoir, il nous est donné par la loi, et en plus, on nous demande de faire, parce que c'est un principe essentiel, de l'individualisation, etc. Donc, oui, c'est vrai, le cadre juridique nous donne un pouvoir. Oui. Est-ce que pour autant, et je termine là-dessus avant que vous me reposiez une question terrible, on a tous les droits ? Non, pas du tout. On n'a pas tous les droits, on a même beaucoup de devoirs. Et c'est là où ma réflexion essaye de proposer des choses, justement, pour repenser l'office du juge et réconcilier le citoyen, car je pense que c'est une urgence démocratique, avec sa justice.
Mais concernant le personnel politique, il y a quand même des interrogations. Par exemple, on a appris que, et d'ailleurs la personne qui accuse était venue sur ce plateau, c'est Robert Bourgi, que l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin avait reçu des cadeaux de chefs d'État étrangers. Le parquet national financier n'a toujours rien dit. François Fillon, ça avait été très vite. Donc on s'interroge, hein, et j'y vois pas, mais je me dis pourquoi parfois ça va très vite sur la saisie du parquet, et puis d'autres fois, puisque là les révélations datent de plusieurs semaines, il ne se passe rien. Alors, peut-être que le parquet va se saisir de ces accusations, de ces révélations concernant Dominique de Villepin, mais là ce n'est pas le cas. Alors est-ce que c'est à la tête du client ?
Alors, moi, je vais vous répondre parce qu'en fait, c'est une proposition que je fais dans ce livre qui est tout petit, mais qui donne quelques pistes de réflexion. On a un système en France qui nourrit la suspicion, qui s'appelle l'opportunité des poursuites. L'opportunité des poursuites, c'est quoi ? C'est que le magistrat du parquet, hein, que ce soit le parquet national financier ou tous les parquets, ont cette capacité de choisir, dans une limite en fait, des modes de poursuite différents, des agendas un peu parfois différents. On peut aller très vite, on peut aller plus lentement, même si on a des règles, hein, je fais très... Et on peut aussi estimer qu'il n'est pas opportun finalement de faire une enquête, etc. Ce système-là, il a évidemment des vertus, qui est celui de ne pas pouvoir, on va pas tout poursuivre non plus. Mais il a aussi, et c'est ce que vous venez de souligner, des défauts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de visibilité. C'est ça qui nourrit d'ailleurs le soupçon, parfois à tort ou à raison, sur qu'est-ce qu'est la politique d'un parquet, notamment, je le dis, sur des contentieux aussi inflammables que les affaires économiques et financières, politiques. Moi, je propose que peut-être que sur ce segment-là, on fasse un peu ce que font les Italiens, c'est-à-dire avoir plus de clarté, de transparence et d'égalité dans les poursuites, qui pourrait être un système qui s'oriente vers la légalité. Ça veut dire quoi, la légalité ? C'est que le procureur n'a pas le choix. Une infraction est révélée, il y a une enquête quoi qu'il arrive.
Donc l'obligation d'ouvrir une enquête.
Oui, alors l'obligation d'ouvrir une enquête, elle est quand même là, mais en tout cas, il y a une espèce de légalité des poursuites.
On n'a pas l'impression qu'il
fait qu'il y a moins d'opportunité, parce que l'opportunité, elle peut s'expliquer parfois pour aussi des raisons de moyens, etc. Mais elle nourrit la suspicion et elle peut être aussi de l'arbitraire en vrai. Il faut le dire, il faut l'accepter. On n'est pas infaillible. Et donc, comme on n'est pas infaillible, en tout cas moi je le pense,
ça veut dire qu'il peut juger en fonction de ses convictions personnelles. Bah oui.
En tout cas, il n'a pas de compte à rendre.
S'il y a de l'arbitraire, bah oui.
Non, mais c'est ce que vous dites, c'est même pas des convictions personnelles. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y aurait des intérêts à poursuivre un tel plus rapidement, etc.
En fait, c'est le deux poids, deux mesures ensuite qui peut être.
Vous savez, c'est toute la question de l'indépendance du parquet qui en France n'est toujours pas résolue, qui reste un débat d'actualité.
L'indépendance, c'est accepter qu'il y ait de l'humain, qu'un juge est une personne humaine.
Exactement. Donc comment on réfléchit
quand même.
Comment on réfléchit, pourquoi en tout cas.
C'est toujours une personne humaine. Pourquoi parfois, on a des doutes.
Non, mais bon, j'espère que vous ne doutez pas en regardant.
Parfois, on cherche l'humanité quand même.
En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des systèmes qui sont différents et il y a des manières différentes de rendre justice.
D'accord.
Nous, notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on peut dire qu'on est parfait, qu'on est humain. De toute façon, il faut entendre cette colère qui monte, il faut entendre.
Est-ce que les juges sont prêts à se remettre en cause? On a l'impression que le monde des juges est un monde quand même assez fermé, corporatiste, et qui est un peu au-dessus des autres. C'est-à-dire, on est censé être infaillible, donc tout va bien.
En fait, c'est pour ça que j'ai pris ce titre un peu provocateur. C'est-à-dire que moi, je l'entends, cette critique. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? Est-ce qu'ils sont au-dessus de tout, etc.? Je pense que évidemment ils n'ont pas tous les droits et d'ailleurs nous sommes soumis, je le dis tout de suite parce que si vous ne me posez pas la question ça sera dit, à une responsabilité civile, pénale et disciplinaire que l'on peut discuter d'ailleurs au passage hein, parce que on peut estimer que c'est assez, pas assez, que c'est mal fait, etc. Mais il est certain que notre système il est perfectible de ce côté-là et qu'en tout cas c'est un enjeu majeur, je dis même que c'est un enjeu maintenant de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un paradoxe assez étonnant, c'est que ça soit en haut, au milieu et en bas, il y a une colère qui monte que moi j'entends. Pour autant, et c'est le paradoxe, on nous demande d'être partout. On met du juge partout. Oui. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire trop,
que
parfois même.
À la fois on nous critique et à la fois on nous désire. Ouais. On veut que le juge intervienne partout.
Oui,
est-ce que des deux côtés, il n'y a pas une réflexion? C'est-à-dire, oui, on n'est pas infaillible. Deux, est-ce que notre présence est nécessaire partout, je ne suis pas sûr.
Charles Consigny, le juge n'est pas une personne humaine.
Non, mais je faisais un peu d'ironie, mais je trouve intéressant en tout cas d'ouvrir ce débat parce que on a souvent effectivement le sentiment que les juges et la société considèrent que, somme toute, il n'y a rien à regarder, il n'y a pas de questions à poser sur le sujet, parce qu'il y aurait une espèce d'infaillibilité du juge. Voire en France, à mon avis, quelque chose de très ancien qui remonte très loin dans notre histoire, une espèce d'infaillibilité du fonctionnaire. Le fonctionnaire, en France, il est considéré comme ne pouvant pas se tromper. Comme avocat, on fait l'expérience de juges très différents. Parfois, c'est un bonheur. Parfois, ça se passe très très bien. C'est en bonne intelligence, ce qui nous empêche pas de nous prendre des roustes, mais en bonne intelligence, ça existe. Et c'est dans ces cas-là très agréable. Parfois, on est face à une espèce de surdité et un autre problème aussi, c'est on a le sentiment de faire face à un bloc monolithique dans certains dossiers. Et ça, je trouve que c'est un énorme sujet, c'est l'effectivité des recours. Parce que, alors, je dis pas que c'est parce que on perd notre recours que forcément il y aurait une ineffectivité des recours, Mais quelque chose que les avocats connaissent très bien, et je ne vais pas être trop dans le détail technique des choses, mais il y a une juridiction qui s'appelle la Chambre de l'instruction, qui en gros contrôle tous les actes qui sont accomplis par les juges pendant les instructions. Donc c'est des choses extrêmement importantes, hein. C'est les perquisitions et surtout la détention provisoire dont les juges en France, je trouve, usent et abusent très volontiers. Bon, bah, la Chambre de l'instruction, elle est surnommée par les avocats la Chambre de la confirmation. Parce que très, très, très souvent, en fait, elle couvre ce que font les juges, voire elle se fait très souvent plus répressive que les juges eux-mêmes en matière de détention. Donc moi, je trouve qu'il y a dans ce propos de Madame Brugère des pistes très intéressantes. Et il y a un truc qui me paraîtrait très important, ce serait de panacher bien davantage la sélection des magistrats en France, c'est-à-dire de s'inspirer de systèmes à l'étranger où on peut certes devenir juge après une école, très bien, mais bon, le juge Burgot de l'affaire d'Outreau, il sortait tout juste de l'école de la magistrature, donc il était peut-être quand même un peu vert pour avoir les responsabilités qu'il a eues, mais ce serait bien qu'on puisse aussi beaucoup plus venir d'un autre métier ou en fin de carrière d'avocat. Par exemple, moi, il y a plein de confrères assez âgés, plein de sagesse, que je verrais volontiers magistrat, parce qu'ils ont l'expérience d'une longue...
Et pourquoi ils ne peuvent pas le devenir?
Bah parce qu'il y a une passerelle qui existe, mais qui est fort peu usitée, parce qu'il y a plein de règles diverses et variées, parce que la grande majorité des juges aujourd'hui, ils sortent de l'ENM, de l'école de la magistrature.
Mais au tribunal du commerce, il y a des professionnels.
Ben justement, alors, au tribunal de commerce, où ce sont effectivement des juges consulaires, les décisions du tribunal de commerce sont très peu frappées d'appel, parce qu'elles satisfont très souvent les parties. Donc c'est effectivement l'exemple que c'est une bonne justice que la justice...
En 30 secondes avant de marquer la pause,
maître Brugère, réponse. Et je complète même, c'est du bénévolat et c'est souvent des gens qui n'ont pas de formation juridique et ça marche très bien. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais juste sur la formation, on est quand même beaucoup plus variés qu'on ne le croit encore, puisqu'on a plus de 40% aujourd'hui du corps qui vient de d'autres voies. La question de la réforme de l'École nationale de la magistrature est sur la table, puisqu'il y a un rapport en cours et une réflexion. Et nous, on est tout à fait favorables, même à changer les choses, à mettre des fonctions pour des gens qui sont plus expérimentés, type l'instruction, type juge des enfants, c'est-à-dire ne pas sortir de l'école, n'avoir aucune expérience, être sur des fonctions de cabinet très difficiles, pourquoi pas. Nous sommes très ouverts aussi à faire rentrer davantage des avocats, mais pas que des avocats, d'autres professions du droit. Donc cette réflexion, elle nous semble très intéressante et nous, on y participe, notre syndicat, de façon assez active. Et je ne sais pas si j'ai encore une seconde.
Allez-y.
Sur ce que vous avez dit, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de réfléchir justement par rapport aux critiques du corporatisme ou du côté monolithique ou du côté c'est même pas la peine d'essayer, la décision est déjà prise, de réfléchir à des contre-pouvoirs mais aussi à d'autres méthodes sur la manière de faire. Plus de collégialité, plus de motivation, plus de transparence, etc. Je pense que tout le monde a à gagner à ce que tout le monde s'explique et ait un fonctionnement. Et là encore, c'est une inspiration des Italiens.
Ben justement, on va continuer d'en parler parce qu'aujourd'hui, les policiers parlent, les procureurs parlent, les seuls qui ne parlent pas sont les juges.
Ils ne peuvent pas se défendre aussi.
Ben justement, il faut revoir ça. Et puis, les juges sont-ils laxistes? Ça, c'est une accusation qui revient régulièrement. Les juges ont-ils tous les droits? C'est la magistrate Béatrice Brugère qui est avec nous dans les GG. Dans un instant, question de Flora Guebali. Bruno Poncet, à tout de suite avec les Grandes Gueules, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
11h25 avec les GG en direct sur RMC et RMC Story avec les Grandes Gueules. Bruno Poncet, cheminot, Flora Guebali, militante écologie, Charles Consigny, avocat et surtout notre invité Béatrice Brugère, la magistrate avec ce livre aux éditions de l'Observatoire. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? Flora Guebali.
Moi, je me dis, c'est vrai que les tribunaux sont des endroits assez fermés. D'ailleurs, quand on demande à un Français à quoi ressemble un tribunal, il a un imaginaire américain parce qu'on voit les séries policières, mais on ne sait pas du tout. Par exemple, je crois qu'il y avait eu un truc. Les Français pensent qu'on jure sur la Bible en France. Or, ça vient de des séries télévisées.
Et objection.
Voilà. Tout ça est totalement faux.
Si t'écoutes la droite, tu jures plutôt sur le capital de Karl Marx, à mon avis. Quand tu entends tout, ça veut dire que c'est un... Non mais ça, et la droite, ils disent que c'est des juges de gauche.
Bon, en tout cas, il y a une grosse méconnaissance.
Oui.
La pub est terminée,
moi,
Bruno.
J'ai vu le documentaire, tu m'excuseras, Charles.
D'accord. Donc, il y a une grosse méconnaissance de ce qui se passe. Ma question, c'est est-ce que filmer les audiences, par exemple, on sait que voilà, le fait que Gisèle Pellico ait refusé le huis clos, ça a été salué par tout le monde parce que ça permettait d'avoir des témoins. Et encore, c'est que des témoins écrits, par exemple, des journalistes. On voit aussi beaucoup les dessinateurs, enfin surtout les dessinatrices, en l'occurrence, de procès qui font un travail très important. Est-ce que vous pensez pas que tout simplement mettre des caméras dans les tribunaux, ça aiderait filmer le grand public à comprendre,
les diffusant en direct.
Et voilà, et ça aiderait par exemple, bah voilà, les gens comme nous à parler avec des images à l'appui, etc.
Oui, alors ça a été une proposition un peu polémique d'ailleurs de Éric Dupond-Moretti quand il était garde des Sceaux. C'est possible puisque ça a été voté. C'est très restreint encore et en fait c'est soumis à beaucoup d'autorisations, y compris ceux des partis hein, qui n'ont peut-être pas toujours envie d'être filmés. Moi je pense qu'en tout cas, quelle que soit la solution, que ça soit filmé ou l'ouverture, emmener des enfants aux audiences, etc. On a un déficit, et vous avez tout à fait raison, de connaissance du fonctionnement de la justice et de pédagogie. Mais on en est en partie responsable, donc c'est aussi à nous de faire cet effort. Et je pense qu'il y a une réflexion très importante à mener là-dessus. D'abord, ça éviterait de dire parfois tout et n'importe quoi, mais et puis ça montrerait aussi comment ça fonctionne. Et peut-être que aussi le fait en effet d'être comme ça plus sous les feux de la rampe changerait peut-être des choses aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes d'éducation à la justice et de pédagogie, je pense que tout ce qui peut être fait dans ce sens-là serait un avantage.
Bruno ?
Moi, ce que j'ai retenu dans votre livre, c'est à un moment donné, vous voulez réduire la fracture entre ben, la justice et la population française. Oui. Et vous parlez comme une des pistes, en fait, de faire de la mixité sociale, c'est-à-dire d'arrêter à un moment donné de que les juges viennent tous à peu près du même, mais comme les hommes politiques, en fait, viennent de la même classe sociale et que redescendent un peu, donner accès peut-être des fois à des personnes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'ont pas fait forcément des études d'avocat, mais faire d'autres études pour devenir juge. D'ailleurs, au prud'homme, au tribunal de commerce, c'est pas forcément des gens c'est surtout pas des gens qui ont fait de la. Moi, je trouve que ça va être compliqué quand même pour vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont les législateurs n'arrêtent pas de critiquer la justice. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous au pouvoir, chacun à leur tour, et ils ne font jamais le travail pour lequel ils n'arrêtent pas de critiquer la justice en disant, ben, on réforme. Moi, par exemple, il y a un truc qui me choque. Moi, c'est aujourd'hui tout le monde avec des dossiers de pédophilie qui tirent aujourd'hui, qu'on en voit tous les jours arriver et qui c'est de pire en pire. Et franchement, c'est plus que choquant. La prescription, par exemple, ou la confusion de peine n'est pas mise à l'ordre du jour en disant, arrêtons la prescription pour les crimes sexuels ou la pédophilie, parce que de toute façon, quelqu'un
c'est
touché par
la... propos Gérald Darmanin, notamment.
Que quelqu'un est touché par pédophilie, en fait, il paye toute sa vie. Quoi qu'il arrive, de toute façon, sa vie, elle est
marquée. Il faut faire sauter la prescription, justement, pour les crimes sexuels, et notamment sur mineurs.
Moi, j'ai eu la chance, je dis la chance, parce que cette commission d'enquête, elle est formidable. Je vous appelle à la suivre, qui est la commission d'enquête en cours sur l'inceste. Elle est de très, très grande qualité. Et pour le coup, madame, pour répondre à votre questionnement, les commissions d'enquête, en tout cas sur la justice, c'est une œuvre de pédagogie très intéressante parce que là, tout le monde est entendu, les experts, les magistrats, les psys, les victimes, le ministre, etc. Et donc, le ministre, en effet, a proposé de revoir la prescription des crimes. Moi, intellectuellement, j'ai pas de problème. D'ailleurs, il y a des pays qui n'ont pas de prescription. Il y a même des pays qui font pas de différence entre les délits et les crimes. J'ai pas de problème intellectuel sur l'idée, puisque je trouve que la justice, c'est ça, c'est que la personne qui a commis un crime doit être, jugée pour ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on a plein d'autres difficultés. Lesquelles? Un, on n'arrive déjà pas à juger les crimes actuels. Il faut pas donner de faux espoirs aux victimes, il y a rien de pire. Deux, plus vous êtes éloigné du temps de la commission des faits, notamment sur les affaires sexuelles, plus c'est compliqué, même si on a eu des progrès sur la police scientifique absolument incroyable hein, sur les gènes,
etc. Plus les crimes est ancien, moins les preuves existent.
Voilà. Donc, c'est juste ça ma réserve, si vous voulez. C'est-à-dire, ne faisons pas croire qu'on va faire ce qu'on ne fera pas. Oui. Deuxièmement, comment on organise du coup cette question-là? En tout cas, pas sur la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est sûr. Parce que il n'y a rien de pire que pour une victime d'avoir un espèce de parcours du combattant, et on le voit dans les témoignages qui sont assez poignants. Et puis une fois, là c'est vraiment la double peine, la justice vous lâche en disant bah écoutez non, c'est horrible en vrai, hein, c'est horrible. Ouais. Mais j'ai pas de.
Puisqu'on parle de Gérald Darmanin,
de position là-dessus.
Il voulait mettre en place une réforme du plaidé coupable criminel.
Oui.
Et puis il a totalement reculé. Alors c'était pour lutter contre l'engorgement des tribunaux, pour aller plus vite, accélérer les procédures. Il y a eu une des avocats, des associations féministes, parce que elle disait non, pas de plaider coupable sur justement les viols, les crimes sexuels. Et il a reculé, il a eu raison.
Alors, moi, je pense qu'il y a une incompréhension sur cette proposition que moi je trouve formidable, puisque on l'a proposé. Donc, je vais quand même rester cohérente avec.
Il manque de courage un peu, le ministre.
Propres propositions. Je me permettrai pas d'avoir un jugement de cet ordre-là. Je pense qu'en tout cas, si c'est pas voté, ça sera. Je pense que ce sera une erreur. Pourquoi ? Parce que le vrai sujet aujourd'hui. J'entends toutes les critiques et elles ont un sens d'ailleurs. Il n'y a pas de justice idéale.
Même Muriel Robin s'est emparée de la question Molière.
Mais elle n'a pas tout à fait.
Où elle a porté ce combat en disant pas de plaidé coupable pour les
crimes sexuels. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, et à mon avis, c'est ça qui est dommage, et y compris même certains avocats, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut. C'est pas, la question, ce n'est pas comment on juge, c'est on ne juge plus. Donc c'est ça qui est terrible. Donc ceux qui critiquent, ils ont droit de critiquer. Mais ils ne proposent rien. Or, ce sont les mêmes qui vont venir vous reprocher. Ouais. La justice ne juge pas, elle est trop lente. Moi, je comprends tout ça. On est très attachés en France aux assises. Moi, j'ai fait beaucoup d'assises, j'ai commencé ma carrière aux assises.
Ne plus là, les assises.
Non, on est très attachés, c'est très culturel, c'est très singulier. Donc, il y a ce réflexe un peu pavlovien, mais si on enlève les jurés, etc. Si ça existe encore.
Ça veut dire quoi, ça existe plus?
En fait, si, elles existent et elles tournent à plein pot. Je regardais encore récemment les chiffres.
C'est des cours criminels.
Elles n'ont jamais, mais bien sûr que non. Elles ont toujours été submergées. Donc, on a créé les cours criminels pour les soulager sur ce qu'on appelle les crimes moins graves. Et ça, c'est une appréciation, évidemment, entre guillemets, de jurés. Parce qu'un crime est toujours très grave, mais on a créé les cours criminels. Les cours criminels ont été à nouveau saturés. Donc vous avez les cours d'assises qui sont saturés, qui existent, les cours criminels qui sont saturés.
Elles sont saturées parce qu'elles sont extrêmement peu nombreuses en réalité par rapport au flux.
En tout cas, elles sont arrivées en plus.
Par exemple, il y a beaucoup plus de faits qui sont justiciables de jurés populaires, de jurys populaires.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui,
ce qui est culturel, pardon, c'est pas les assises. Au contraire, ce qui est culturel, c'est l'omniprésence du fonctionnaire. Et ce qui d'ailleurs date de Pétain, c'est l'introduction du juge dans la cour d'assises. Ça, c'est un héritage de Pétain. Mais avant, le jury délibérait tout seul. Absolument.
Oui,
le jury populaire délibérait tout seul. Et donc, on peut pas.
Oui,
vous savez, on n'est pas dans un tribunal. Justement.
Oui, oui.
Ah, c'est dommage. Donc, il n'y a pas que le juge qui a la parole et qui décide. Vous voyez, c'est une belle illustration de votre essai.
Non, je décide de rien.
Donc, ce que je veux dire simplement à nos auditeurs, si on peut placer un mot, c'est que ce qui est culturel en France, pardon, ça n'est pas du tout la cour d'assises qui a été détruite par Dupond-Moretti. Et c'est d'ailleurs fort dommage que ce soit Dupond-Moretti qui ait fait ce sale boulot, parce que c'est un sale boulot. Et ce qui est culturel, en revanche, c'est la déification du fonctionnaire et du magistrat, qui fait que maintenant, la cour criminelle, elle a carrément plus de jury populaire, le peuple est sorti de la cour d'assises, et le juge, il est entré dans la salle du délibéré et il délibère maintenant
sont plus
quasiment à la place des jurés. Et ça date de Pétain. Moi, j'aime beaucoup le système américain où le juge n'a pas voix au chapitre. Il arbitre simplement le débat. Accusation et défense sont à égalité. Il n'y a pas la fameuse erreur du menuisier qui fait qu'en France, le parquet est en hauteur par rapport à la défense et est à la même hauteur que les juges, rentre par les mêmes portes d'ailleurs, sort par les mêmes, bref, fait la même école, etc. C'est deux systèmes, deux parties qui sont à égalité. Et le jury délibère tout seul. Et ça, je trouve qu'on devrait s'en inspirer, parce que là, je trouve qu'on est vraiment dans la justice. Alors qu'en France, on tend vers une justice d'État, en réalité.
Alors, on s'éloigne par rapport à mon propos, mais j'ai pas le temps de répondre à un tout. C'est un autre système qui peut se défendre, c'est pas le mien, mais pourquoi pas, où en effet, les parties sont à égalité et il faudrait changer tout notre système de procédure, mais pourquoi pas. Moi, de toute façon, je suis ouverte je suis réformiste par nature, donc j'entends toutes les... Je dis simplement, et je suis obligée de vous le dire, oui, les cours criminels avec les jurés fonctionnent à plein tube, je regardais encore les chiffres, on n'en a jamais fait autant. Oui, les cours d'assises fonctionnent à plein tube et la question, la présence des avocats d'ailleurs, est assez intéressante puisque la dernière loi propose, et on l'a soutenue, que des avocats justement siègent à côté dans les cours criminels parce qu'en fait, c'est cinq magistrats qu'on n'a pas. Et donc, il faut trouver des gens pour siéger. Donc, la mixité, le côté, moi, j'ai aucun problème là-dessus, je suis pas du tout corporatiste, c'est d'ailleurs peut-être ce qu'on me reproche. Simplement, notre difficulté, et c'est dans ce contexte-là qu'arrive le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est qu'on n'arrive plus à juger les crimes. Alors, on va pas faire... voilà, donc il va bien falloir trouver une solution. Et il y en a plusieurs, sans doute. Le plaidé coupable en était une, d'autres pays européens le font depuis longtemps. Il faut trouver cet équilibre entre la préservation
surtout
des droits
plus donc on pourra pas embaucher,
et la capacité de la justice à rendre justice, qui est son premier devoir et son seul devoir.
Merci Béatrice Brugère. C'est un petit livre qu'on vous conseille, 70 pages. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu parler de la justice avec les GG, avec les grands gueules. Dans un instant, on va parler de l'orthographe. Les recruteurs, maintenant, regardent les fautes d'orthographe et quitte à ce que ça vous coûte l'embauche et le job. Est-ce que c'est trop sévère? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec Flora Gavali, avec Charles Consigny, avec Bruno Poncé. Avant de parler de l'orthographe, est-ce que ça peut être éliminatoire si on veut un job? Je dis bien si on veut un job. Les recruteurs maintenant font très attention. Vous venez en parler avec nous au 32-16. On va d'abord distribuer les cadeaux Coupe du Monde, la totale de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est dans un mois. On a notre premier gagnant aujourd'hui dans les grandes gueules, c'est Patricia qui est avec nous. Elle nous appelle de Gironde, de Bègle. Bonjour Patricia.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous avez été tiré au sort. Vous avez la possibilité de gagner baby-foot, des maillots des Bleus, des barres de son, des écrans, plein de cadeaux. Je ne les ai pas tous donnés. Alors, ma chère Patricia, vous avez les 26 joueurs...
Pardon, est-ce que tu peux décrire cette œuvre originale?
On a un magnifique tableau qui est un terrain de foot symbolisé, voilà, avec tous les maillots de l'équipe de France.
Bravo,
des maillots
Catherine,
bleus.
Quel talent. Et alors à côté, il y a Louis Gerbier. Qu'as-tu dans ta main, Louis?
Sélectionneur, notre sélectionneur.
Il a un marteau.
Alors, ma chère Patricia, vous savez que Didier Deschamps a sélectionné 26 joueurs.
Oui,
donc, donnez-moi le non pas le nom d'un joueur, si vous, au moins que vous l'ayez en tête, parmi les sélectionnés, mais sinon on va de 1 à 26. Je vous écoute et ensuite on voit ce que vous avez gagné.
Je vais dire le 9, Thuram.
Le 9,
c'est Thuram.
Marcus Thuram. Oui. Louis va regarder ce que vous avez gagné. Je t'en prie, vas-y, attrape la petite feuille. C'est pratique, ce truc.
C'est comme un calendrier de l'Avent, mais voilà, avant le mondial.
C'est pas d'accord. Voilà. Allez, viens à côté de moi, Louis, et tu vas dire à Patricia ce qu'elle a gagné. On y va.
Patricia, vous avez gagné le pack jeu avec un baby-foot, la boîte de Lego Coupe du Monde et les Panini Coupe du Monde.
Génial.
Bah écoutez, c'est super, ça fera plaisir à mes fils, je crois qu'ils seront ravis. Voilà.
Ah bah vous m'étonnez, vous avez la place pour le baby-foot, j'espère. Hein. Faut la place.
On la trouvera, ne inquiétez pas.
Eh bien super, c'est un beau cadeau. Mes félicitations, Patricia. Merci,
bah écoutez, merci à vous de votre
fidélité à la Coupe du Monde. Donc, voyez, derrière chaque joueur de l'équipe de France, c'est un beau gagnant pour vous. Il suffit d'envoyer liste par SMS au 732-16, liste par SMS au 732-16. Vous avez encore 5 minutes pour vous inscrire et gagner dans tous les shows d'RMC.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il n'en manque qu'un, que tu t'en fous.
Petite chanson de Gainsbourg, si je ne m'abuse.
En relisant ta lettre.
En relisant ta lettre, ben là, certains recruteurs, ils n'osent même plus relire les lettres tellement elles sont bourrées de fautes d'orthographe. Du coup, ça devient éliminatoire pour avoir un travail. Alors, est-ce que c'est trop sévère ou pas? 32-16 pour le dire au GG.
À CV égal, celui qui contient des fautes d'orthographe a deux fois plus de risques d'être écarté. Il y a une spécialiste qui expliquait dans Le Monde, il y a quelques mois, que maîtriser l'orthographe et la grammaire, c'est montrer aux recruteurs qu'on a bien les codes sociaux qu'exige l'emploi pour lequel on postule. Et c'est vrai que les recruteurs estiment qu'un CV, une lettre de motivation avec des fautes d'orthographe, ça traduit un manque de rigueur, de la légèreté, de la négligence. Ça veut dire que professionnellement, c'est quelqu'un qui ne saura pas être rigoureux. Et ça va même plus loin. Certains recruteurs pensent que des fautes d'orthographe, c'est aussi synonyme d'un manque d'intelligence et de compétences, donc une incapacité à tenir un poste. Est-ce que ces recruteurs ont raison ou est-ce qu'ils passent à côté peut-être de talents qui, certes, ne sont pas bons en orthographe, mais qui ont d'autres compétences?
Toi qui recrutes?
Moi, je recrute pas en ce moment parce que l'état du marché le permet pas, malheureusement. Mais par contre,
un CV trouvé de faute, on fait quoi?
Hors de question. C'est-à-dire que, alors après, moi, c'est un métier dans lequel on écrit beaucoup, donc particulièrement hors de question. Mais même dans l'absolu, je trouve que c'est un manque de motivation parce que, en fait, même si vous faites des fautes, que vous ayez pas quelqu'un à qui demander une relecture, voire l'IA, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous mettez votre texte dans ChatGPT, dans une IA, vous avez un texte corrigé, c'est un manque de motivation. C'est, j'ai écrit un mail à la va-vite, soit vous vous relisez tout seul, soit vous vous faites relire.
Donc, t'as dit quelque chose de la personnalité de la personne.
Je trouve que, pour le coup, s'il y a un endroit sur lequel je suis conservatrice, c'est sur l'orthographe, parce qu'en fait, à un moment, il faut respecter notre langue, et voilà, et c'est important.
C'est rédhibitoire et éliminatoire pour toi.
Dans les métiers, parce qu'on a besoin de beaucoup d'écrits, on écrit beaucoup à des clients, etc. Ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est que aujourd'hui, le chômage monte, et on a tendance à pas trop le dire, je sais pas pourquoi, c'est comme la crise économique, on est en crise économique, mais on n'en parle pas trop.
C'est vrai.
Le chômage monte, on n'en parle pas trop, et donc, qui dit chômage qui monte dit recruteur plus exigeant. Ça veut dire que le rapport de force est en train de changer. Et donc, les recrutés qui se permettaient beaucoup d'exigences, malheureusement, vont devoir revoir à la baisse leurs exigences.
Charles, quand tu recrutes un collaborateur, est-ce que l'orthographe, c'est un critère important?
C'est majeur, mais moi, je ne recrute que des majors de promotion qui n'ont aucun problème en orthographe. Non, mais c'est pour de vrai. Si je dois recruter quelqu'un, on a à Paris deux collaborateurs, je m'assure d'avoir vraiment un niveau parfait parce que j'ai besoin qu'ils puissent écrire des courriers qu'on envoie à des juges, à des clients, à des confrères, sans forcément que je repasse dessus. Donc il faut que ce soit parfait. Mais moi j'ai eu le problème avec des stagiaires que je prenais, pas forcément pour mon cabinet, mais pour d'autres activités médiatiques, etc., très compétent sur la technique, par exemple pour la vidéo, pour ce genre de choses. Et il y avait des fautes d'orthographe sur certains textes. C'est très handicapant, c'est un vrai problème. Et on s'arrache les cheveux parce qu'on se dit, mais c'est dommage.
Cécile Duflot a dit sur RMC, l'orthographe n'est pas une religion.
Oui, mais forcément, quand on veut le monde.
C'est ce qu'elle a dit.
Que souhaite Cécile Duflot?
Il faut arrêter les psychopathes de l'orthographe.
Oui, oui.
Elle a mis ses enfants Henri IV, donc visiblement, quand même, l'orthographe, c'est important.
Et puis, elle a une fille qui s'appelle Térébenthine, donc il faut quand même savoir écrire son prénom, mais. C'est pas facile, il faut être calé en orthographe. Moi, je suis pour le retour de la dictée.
Ah oui.
Je pense que, d'ailleurs, je crois que notre excellent ministre de l'Éducation, Monsieur Geffray, je crois qu'il est en pointe sur ce retour de la dictée. Oui. Je pense qu'il faut faire revenir la dictée quotidienne à l'école primaire.
Moi, je l'avais.
Oui, mais c'est très bien. Mais c'est comme ça qu'après, on ne fait pas de faute d'orthographe et qu'on n'est pas handicapé dans la vie.
Ça n'existe plus, la dictée.
Beaucoup moins.
Il y a des enfants en primaire.
Beaucoup moins. Plus personne ne fait d'enfants. C'était la seule qui a fait des enfants récemment.
Bruno Poncé.
Moi, je trouve que, en plus, on a intérêt à s'inquiéter parce que les futures générations qui arrivent, c'est l'écriture, ça va faire flipper. C'est le que, c'est KE, c'est VON, c'est VON. En fait, tu vois, il va falloir revenir en arrière, ça va être compliqué.
Après, très, très compliqué. Les jeunes, que je côtoie dans mon entourage, ils font la part des choses entre une écriture, effectivement, entre eux sur par SMS, etc., ou sur leur groupe WhatsApp, et l'écriture qu'ils vont. Enfin, j'espère qu'ils font ces différences et l'écriture qu'ils doivent avoir lorsqu'ils
sont. Non, mais après, on n'a pas tous la chance d'avoir eu une éducation longtemps, et on n'a pas tous la chance d'avoir aussi des parents.
C'est le primaire. Hein.
Oui, mais
c'est
en fait, l'école ne suffit pas.
Tout le monde va
si
à l'école.
Des parents, alors, juste, oui. Je termine ma phrase. Si tu as des parents qui par exemple, derrière. Ne sont pas français et donc ne peuvent pas corriger tes dictées le soir et t'aider à progresser, c'est beaucoup plus difficile. Sauf que, coup de chance, cette inégalité, aujourd'hui, elle est quand même atténuée par l'intelligence artificielle et Internet, qui est que vous pouvez faire relire une lettre de motivation à ChatGPT. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça pallie quand même à cette grande inégalité.
Sauf qu'à l'école, pendant longtemps, ça n'a plus été une exigence. C'est-à-dire que tu pouvais rendre une copie, moi j'ai été témoin de ça, au primaire, truffé de fautes d'orthographe, mais tu avais quand même une bonne note, parce que ce qui comptait, c'est ce que tu voulais dire. L'intention que tu mettais dans tes propos. Et oui, ça a été ça. Il y a eu du laxisme. Et là, on est un peu en train de revenir en arrière, comme souvent.
Mathieu veut réagir. Mathieu, chauffeur poids lourd dans le Morbihan. Bonjour Mathieu.
Bonjour Gégé.
Qu'est-ce que t'en dis, Mathieu ?
Moi, je dis que c'est n'importe quoi. Moi, je suis une vraie tanche en orthographe. Je suis pas plus bête qu'un autre. D'accord, je sais me faire comprendre. Après, oui, comme dit Flora, par contre, moi, je fais l'effort, j'ai la motivation que quand j'écris des mails, je vais sur ChatGPT, je me fais corriger pour pas que ça soit non plus, voilà, une atrocité à lire. Mais voilà. Mais par contre, on va accorder beaucoup d'importance à l'orthographe. Mais par contre, les maths, ça c'est pas un problème. Hein. Mais moi, à la fin du mois, quand s'il y a une erreur sur ma paye et que je sais compter s'il y a une erreur ou s'il y a pas une erreur. Et ça, les maths, on n'accorde pas autant d'importance. Et c'est pareil, moi je trouve ça que...
Mais vous êtes meilleur en calcul qu'en orthographe, quoi.
Ah, beaucoup plus. Beaucoup mieux, je suis meilleur en maths, j'ai toujours appris à compter, ça a toujours été important, ça m'a toujours attiré. L'orthographe, ça a été compliqué, il y a des choses... Après, on veut intéresser les enfants à l'orthographe, et il va peut-être falloir changer l'imparfait, du subjonctif, du machin, des trucs qu'on n'utilise même pas dans la vie de tous les jours. Ça sert à quoi d'apprendre des choses qu'on n'utilisera pas dans la vie de tous les jours?
Ah, mais ça, c'est ce qu'on apprend toujours à l'école. Avant l'école, on a appris plein de trucs, mais ça ne servait à rien. Mais voilà. C'est parti de l'éducation, de la culture.
Il y a un sujet qu'on a oublié. C'est la gestion de tous les dyslexies, etc. Oui. On en parle de plus en plus, mais c'est des gens qui ont souffert en silence pendant très longtemps parce que ils ont vraiment pas la capacité, par exemple, de ne pas faire de fautes d'orthographe. Et aujourd'hui, on en parle, mais c'est que le début.
Mathieu, merci. On va conclure les GG aujourd'hui.
On va faire une dictée pour terminer.
Voilà. On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Votre cahier.
Est-ce que les recruteurs sont trop sévères sur l'orthographe? Vous mettez non.
Le mot et c'est le midi.
Non. À 60, ils ont raison. Donc 74%.
Estelle, il y a deux L.
Passez une bonne après-midi. N'oubliez pas les podcasts sur l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. Et demain, on sera là avec Jean-Loup Bonamy, Abel Boyi, Joël Dagosséry et Nicolas Dupont-Aignan. Candidat à l'élection présidentielle.
Comment tu l'écris, tiens?
Il y a et d'ailleurs ça.
Avec un T.
Oui, mais il n'y a pas de liaison à faire. Tu fais pas les liaisons sur les noms propres. C'est Nicolas Dupont-Aignan.
Dupont-Aignan.
Oui, bon, très bien.
Ça fait partie du français, toi.
Ah, d'accord. Je vais le noter.
Bonjour.
J'en parle pas tous les jours non plus. Vous voyez. Bonjour les GG. Bonjour Alain. Dans un instant, on va parler de la plainte de Flavie Flamand contre Patrick Bruel pour viol. 7 plaintes contre le chanteur. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait? Écoutez, c'est la question qu'on va vous poser. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera également de la petite polémique du week-end sur le comédien Artus qui a monté les marches de Cannes en jupe avec un sac à main.
Grotesque.
Est-ce que vous avez trouvé ça
horrible?
Grotesque. Bon, enfin, n'exagérez pas. Ou génial.
C'était affreux. Je trouve ça d'une débilité en plus.
Mais pourquoi?
Mais c'est le wokisme dans toute sa splendeur.
Mais s'il a envie, il est libre. Grand libéral, non, chacun fait ce qu'il veut.
Et alors, je suis libre de dire ce que j'en pense.
Si un mec qui a envie de
je pense que dans quelques années, on rigolera de ce genre de bouffonnerie.
Brad Pitt s'est mis en jupe une fois.
Oui, mais c'est Brad Pitt.
Très bel argument.
Merci Charles.
Et au niveau de vos plaidoiries, vous êtes comme ça aussi?
Ça marche très bien.
Je pense que les juges comprennent très bien
la différence entre Brad Pitt et Artus.
Très bien. Nous allons parler également de la proposition de Louis Sarkozy. C'était ce matin sur notre antenne de supprimer le SMIC. pour ou contre la suppression du SMIC. Ça, on en parle à 13h30. Et puis enfin, je ne sais pas si vous avez vu ces études, nos ados boivent moins et font moins l'amour. Est-ce que nos ados sont devenus trop sages?
Est-ce que l'un dépend de l'autre? Je ne comprends pas.
Non, pas forcément, mais il y a des baisses dans les deux niveaux, voyez-vous.
Donc,
mais aujourd'hui, ils font du tricot. Enfin, ils ne sortent plus, ils ne boivent plus, ils ne font plus l'amour, mais ils font du tricot. Est-ce qu'ils sont devenus trop sages? On peut boire et faire du tricot ou faire du tricot à 18h et faire l'amour à 20h.
J'imagine les pulls que tu fais quand t'es bourré, ça doit être sympa.
C'est un peu trop, je sais pas. Et le tu préfères?
C'est fini.
Volet ou rideau? Ah, c'est pas facile.
Pas mal.
Rideau. 32-16.